Ces mots de cher Sidi Bémol sur cette chanson. Je me rappelle à l'époque, on dansait dans les rues, tout le monde a promis, on a chanté l'hymne national. Mais où est l'innocence? Bonjour, cher, bonsoir, chers auditeurs, chères auditrices. Nous revoilà sur une nouvelle émission, Enquête de cinéma. Ce soir, vous êtes... on est en présence de Farhat Mohali.
Mohali, ouais.
Mohali.
Bonjour.
Bonsoir Farhat. Et ravi de te... que tu aies accepté et qu'on puisse faire cette rencontre.
Au contraire, merci pour l'invitation.
Merci Farhat. On est avec, assisté avec Heidi. Et Dormil Saviv, que vous connaissez peut-être, vous avez eu l'occasion de peut-être sur cette radio d'écouter une émission qu'on a réalisée. On a parlé ensemble de son œuvre, son travail de documentariste. Il est notamment professeur documentariste et professeur d'histoire de cinéma. Nous regrettons ce soir la présence de Lolo, avec qui on a eu l'habitude d'entendre sa voix métallique, et il est en voyage. Il s'excuse pour cette fois, et nous espérons le revoir dans la prochaine, bientôt. Nous souhaitions recevoir Farhat en compagnie de sa femme, Carole, qui n'est pas là avec nous ce soir, elle s'est excusée pour des raisons professionnelles, elle poursuit sa formation. Et je vous fais une première présentation rapide de Farhat, si me le permet. Heureusement que le temps passe, Farhat. C'est avec ce premier documentaire que tu obtiens donc le prix du jury au Festival National Imazir en Algérie et qui fait le coup de cœur du public du Festival français Point Doc. Tu réalises ton premier court-métrage en 2010 lors de la formation Bjaïa Doc en Algérie et grâce à cette belle rencontre avec
Habib
Ajahnin. Tu es né en 1986 à Akhbou, en Kabylie, précisément dans le village de Soudouk, où tu as grandi. Et en temps, donc tu réalises ton premier court-métrage en 2010. En tant que comédien, tu joues dans plusieurs séries, des longs-métrages français, étrangers. Et aujourd'hui, tu te diriges vers la réalisation. Au départ, tu as fait des études en sciences économiques, tu as eu tes diplômes, et en 2012, donc, tu commences à réaliser un premier court-métrage, Des vies sous silence, durant l'université d'été de la FEMIS, l'Institut supérieur de l'image et du son, à Paris. Tu participes au tournage et au montage du documentaire Fatéa de ta future femme, Carole, qui sera très vite diffusée sur le site de TV5 Monde. Je vais faire aussi un petit résumé de Carole, qui est diplômée en histoire, en journalisme. Elle travaille au sein de quotidiens régionaux. Elle écrit, elle réalise des web-documentaires. Donc le web-documentaire Fatéa dont on a parlé, qui était diffusé la même année de sa réalisation en 2012, où vous passiez le diplôme donc, de sortie
à
la FEMIS. Elle est journaliste indépendante d'abord, puis elle réalise des reportages sur des thématiques sociales, environnementales, diffusées sur pas mal de médias en France et à l'international. Depuis 2017, elle est rédactrice scientifique au sein de l'IRD, l'Institut de Recherche et Développement, et nous n'allons pas en dire plus pour l'instant. Simplement, nous allons commencer notre rencontre par quelques petites transitions sur, au départ, ce premier documentaire Des vies sous silence. Et je demande à Sidi de nous faire passer un premier extrait.
Il y a un endroit à Alger que tout le monde connaît, c'est la place Odin, un nom français au milieu d'une ville algérienne. C'est de cette manière que j'ai appris que des Français avaient lutté pour l'indépendance de l'Algérie. Car Odin, Maurice Odin, était un Français, mathématicien, communiste enlevé, torturé et tué par l'armée française en juin 57. Pour son engagement à l'âge de 25 ans. J'ai 25 ans, je suis à Paris. Ici aussi, on parle du cinquantenaire de notre indépendance. À l'école, il n'y avait pas de nuances, pas de réserves, seulement un monde en noir et blanc, où la haine du colon était synonyme de la haine des Français. Mais ces Français oubliés de l'histoire officielle, qu'est-ce qui les a poussés à s'engager aux côtés des Algériens ?
Voilà. Après ce petit extrait, donc j'espère, Farhat, si tu veux bien nous parler de donc de ta rencontre, double rencontre, avec le cinéma, le monde de la réalisation, avec ta future femme, Carole, à la Fémis. Puisque à ce moment-là, Carole ne connaît pas encore l'existence de ces hommes, ces femmes, qui ont secrètement collaboré auprès des Algériens pendant la guerre. C'est ce qui va, à partir de là, qu'une histoire s'enchaîne, au niveau de la réalisation, au niveau de vie.
Au fait, pour moi, comme tu l'as très bien dit, je suis né, j'ai grandi en Algérie, j'ai fait mes études universitaires là-bas, donc en sciences économie. Après, quand j'ai découvert le cinéma à travers Béjaïa Dogue, donc avec mon premier court-métrage qui était Heureusement que le temps passe, donc j'ai eu une bourse au fait pour faire l'université d'été à la FEMIS. Et quand je suis arrivé à la fin de la formation, en fait, il faut réaliser un court-métrage. Et moi, c'était le 50e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Et je voulais travailler sur ce thème. Et quand j'ai commencé à travailler dessus, j'avais déjà cette idée-là de... Comme on l'a entendu dans l'extrait. En fait, moi, j'ai grandi avec l'enseignement en Algérie, avec un monde en noir et blanc. Donc, les bons contre les méchants. Les Algériens se sont levés d'un coup. Ils ont sorti tous les Français qui sont les méchants, en fait. Et donc, j'ai grandi avec ce récit-là. En quelque part, la découverte de ces Français qui ont travaillé du côté des Algériens, quelque part pour moi, ça déconstruit un peu ce que j'ai reçu au fait. Donc c'est pour ça que ça m'a motivé à creuser plus et réaliser le court-métrage Des vies sous silence.
Oui, et en même temps, vous vous entraînez, toi et Carole, elle réalise son premier documentaire.
Pour elle...
Fatéa, avec des femmes algériennes, c'est un web documentaire qu'elle réalise à l'époque. Ouais. Et toi, tu y avais pour...
En fait, j'ai travaillé avec elle déjà sur ce web documentaire. C'est des portraits qui sont un peu... on a fait le tour de l'Algérie, et dans chaque région, on rencontre des femmes, et donc on fait un portrait d'une femme,
Fatéa,
donc femme qui travaille, qui s'investissent dans la vie quotidienne, donc en Algérie. Et après, Carole, elle a travaillé avec moi sur Des vies sous silence.
Voilà, et donc elle accepte de jouer ce rôle. Il y a une séquence dans ce film où elle joue le rôle de porteuse de valise. Et c'est ce qu'on va découvrir avec, peut-être en enchaînant sur un deuxième extrait du film. Je rappelle que Carole, à ce moment-là, ne connaît pas encore l'existence de ces hommes et de ces femmes français qui ont collaboré.
Sur ce que certains Français avaient pu faire à cette époque-là. Je suis aperçu que le gouvernement algérien avait fait silence. Et après, ils sont tous venus, ils prenaient en photo, ils embrassaient, etc., etc.
Pourquoi cacher des parties de l'histoire ? Comme dit Mouloud Mamri, un historien kabyle, un peuple sans mémoire est condamné à revivre son histoire.
D'une façon générale, les États et les gouvernements à la tête de ces États ont toujours tendance à vouloir instrumentaliser l'histoire en fonction de leurs intérêts. C'est une donnée constante, plus ou moins importante, hein, mais je crois que c'est toujours le cas. Donc, ce qui me paraît absolument essentiel, c'est l'action des citoyens, de ce qu'on appelle les sociétés civiles. C'est la démarche des citoyens, que ce soit en France, pour ce qui me concerne, et en Algérie, pour ce qui concerne les citoyens algériens, pour connaître, écrire, faire connaître leur histoire.
«
Voilà, donc à ce moment-là, en parlant de Carole, elle ne connaît pas l'existence. Elle est de famille pied-noir. Et toi, tu es un Kabyle, issu d'une famille qui a participé au mouvement du Front National de Libération, de FLN, en Algérie. Et c'est ça qui fait un... Comment tu as rencontré d'abord, voilà, j'aimerais bien, ta rencontre avec ces personnages premiers de ce film, Vie sous silence, Jean-Luc, je cite Jean-Luc Einaudi, et Christian Mercier.
Einaudi, c'est la personne qu'on vient d'écouter là.
Et on a. Oui. Ouais. Bah, au fait, dans ce court-métrage, il y a tout. Il y a la découverte de pas mal de choses. Et je continue sur moi déjà par rapport à ce que je disais tout à l'heure, la découverte de ces Français qui travaillent du côté des Algériens. Donc quelque part ça déconstruit un peu le mythe que j'ai reçu auparavant. Et en même temps, quand je rencontre Jean-Luc Einaudi, pour moi, un Algérien qui rencontre un Français, et ce Français-là, au fait, c'est pas n'importe quel Français, et c'est un historien...
Spécialiste de l'histoire, ouais. Sur le massacre des Algériens du 7 octobre 1961.
Surtout, c'est lui qui a mis en lumière le massacre de 61, donc les Algériens qu'on dit, qu'on a jetés dans la Seine à Paris, c'est lui qui l'a mis en lumière.
Et il a fait deux procès de Papon,
qu'il a gagné d'ailleurs. Et donc, c'est pas. Moi, pour moi, quand je le rencontre, c'est un peu naïf de dire ça, mais quand je le vois, je me dis, mais qu'est-ce qui le motive au fait à faire ça, à être contre son pays aussi, et à faire. Tout simplement, il était humain. Et donc, pour moi, cette rencontre-là... Et Carole, de son côté, qui a grandi avec un récit de sa famille... bon, ce qui concerne la guerre d'Algérie, elle n'a rien reçu. Hein, c'est un silence. À l'école, il n'y avait pas la question de la guerre d'Algérie. Mais dans sa famille, il y avait juste le récit de paradis perdu, au fait. On avait des richesses en Algérie, et après, on est parti, on est rentré avec la valise... Ou bien les récits, c'était magnifique l'Algérie, c'était super, on avait des villas, on avait ça, on avait ça. C'est que de la nostalgie, au fait, de l'époque. Et donc, elle a grandi avec ça. Et quelque part aussi, il y a un peu la haine de l'Algérien qui nous a sortis de l'Algérie. On était bien en Algérie et après, on a quitté. Donc, et par la suite, quand elle découvre... ça, la question de Français qui ont travaillé du côté des Algériens. Les Algériens, ils voulaient tout simplement libérer leur pays. C'était pas un vol, c'était pas un arraché, parce que le récit pied noir, on dit que on a perdu notre pays en quelque sorte, parce qu'ils étaient là en quatrième génération, troisième, quatrième génération. Et par la suite, elle découvre autre chose. C'est ce travail-là qui nous mène à ne nous raconter plus d'histoires par la suite, au prochain long métrage. Parce qu'en fait, pour elle, elle découvre et la torture et les massacres des Algériens et la question des Harki et le sort de Harki. Donc tout ça, au fait, c'est des découvertes, au fait.
Oui, parce que elle le dit à une des au matin d'Alger, il y a je la cite, elle s'est rendue compte qu'elle aussi elle manquait de connaissances sur la guerre d'Algérie alors qu'elle était fille de pied noir, et donc c'est là que ça scinde votre complicité pour travailler ensemble sur le futur projet. Film documentaire long métrage que vous allez réaliser, et sans dévoiler le titre ni rien, mais surtout dans ce premier, donc il y a on a cité Jean-Luc Einaudi et Christian Mercier aussi. Les deux, ils étaient porteurs de valises pour nos auditeurs. Est-ce que tu peux? Parce que peut-être beaucoup de gens ne connaissent pas.
Oui, et surtout les appellations, parce qu'on parle de porteur de valise, on dit aussi...
Ce qu'il risquait et pourquoi il le faisait.
Les agents de liaison, en fait. Ouais. Et il ne faisait pas que porter des valises, il faisait aussi, il hébergeait des Algériens. Il faut savoir qu'à l'époque, les Algériens, quand ils sortaient dans les rues de Paris, à Lyon, ils sont rapidement arrêtés ou fouillés. Et donc, il y a des Français qui sont portés volontaires à porter des valises, que ce soit des faux papiers ou de l'argent,
des prospectus.
Voilà, exactement. Et rarement de l'armement, mais ils le font quand même. Et aussi, ils hébergeaient des Algériens. Ils s'engagent du côté des Algériens en tous les cas.
Oui, et Christian, il le dit. Ouais, ouais. C'était souvent des prospectus. Ils étaient contents d'avoir fini la mission, d'avoir livré la valise, parce que ça leur pouvait leur coûter très cher. 10 ans d'emprisonnement,
exactement,
tortures, peut-être. Alors que dès 1955, il y avait déjà Francis et Colette Johnson qui avaient écrit sur ce qui se passait en réalité dans cette sale guerre, la guerre d'Algérie, qui s'appelle intitulée l'Algérie hors la loi.
Et ils étaient considérés comme des traîtres, au fait, des traîtres à la nation, parce qu'ils allaient contre. Parce qu'il faut savoir, il faut toujours se retourner à l'époque. À l'époque, on disait l'Algérie, c'est la France. C'est un département français. Et on disait aux jeunes de l'époque qui partaient pour faire la guerre en Algérie, on leur disait, vous allez remettre l'ordre. C'est un peu comme ici à Marseille, il y a des manifs, il y a des CRS qui arrivent de Bordeaux ou de Paris pour remettre l'ordre ou pacifier. Donc les termes utilisés à l'époque, c'était ça.
On va y revenir. Alors ne nous racontez plus d'histoires. Et c'est une longue histoire, en fait. Et Farhat, tu dis, j'ai découvert qu'il y avait deux histoires. Est-ce que tu peux nous passer, Sidi, s'il te plaît, l'extrait 3 ? Merci.
D'un côté, on parle énormément de la guerre d'Algérie et c'est trop mythifié, trop glorifié. Et de l'autre côté, on essaye de ne pas parler, il y a une sorte de pudeur et de peur qui fait que ça devient très mystérieux, et dès qu'on parle de la guerre d'Algérie, ah non, 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 c'est sensible, ah non, 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 il ne faut pas en parler. Ma grand-mère, j'ai un lien particulier avec elle parce que j'ai perdu ma mère à l'âge de 7 ans. Mais après le décès de ma mère, elle a pris le relais et c'est elle qui s'occupait de nous. Ma grand-mère, elle s'appelle Atika et moi, je l'appelle Jida. Mais Jida, c'est grand-mère en arabe, en fait. Quand j'étais enfant, je montais dans les montagnes avec ma grand-mère et on allait récolter les olives dans le champ. C'est un peu loin du village, au fait, et on montait des collines, et généralement avec un âne qui nous servait pour porter les bagages et les affaires. Et le champ lui-même, c'est vraiment une grande bosse où il y a plein d'oliviers. Et du coup, on se mettait à ramasser les olives. À l'époque, on n'utilisait pas les filets, au fait. Donc ça prend énormément de temps, et là, ma grand-mère, elle se mettait à chanter pour accompagner la récolte des olives.
نكون يا سالم زي الزاير لغوتنا بغات تدنار تروزين وقان قبل في غاد موت ولا الدال نقار فنار من مدنك وغاقت مرتا إني تجد ما يغيت سويد لعقل صحة.
Un jour, elle m'a raconté un rêve qu'elle a fait. C'était juste avant le déclenchement de la guerre. Et c'était un rêve assez étrange.
J'ai rêvé que les villages autour de ma maison étaient tous en feu. Tadar Wada, Iril Yeni, Ijmor. Il y avait des incendies dans toute la vallée. Là, j'ai entendu une voix qui m'a dit que tout cela allait arriver dans la réalité. Ensuite, j'ai continué de marcher et j'ai vu un oiseau qui était coincé dans les branches d'un arbre. Et il y avait d'autres oiseaux qui étaient en train de le manger. Je me suis dit que ces oiseaux étaient en train de se manger entre eux, entre frères. Et là, la voix m'a répété que tout ça allait vraiment arriver. Et puis les années ont passé et mon rêve s'est réalisé.
Quand elle dit l'oiseau, il est mangé par d'autres oiseaux, en fait, elle, pour elle, ça lui parle comme si des Algériens entre eux ou des frères entre eux se bagarraient entre eux, quoi. Ou Algériens tuaient d'autres Algériens. Donc c'était ça. Et du coup, avec le temps, tout s'est vérifié, en fait, tout s'est arrivé. Dans ma famille, quand j'étais petit, on ne parlait pas trop de la guerre d'Algérie. C'est comme si on était pris par les problèmes du quotidien, quoi, et de s'en sortir dans la vie. Et du coup, oui, on ne parlait pas de ça, mais c'est juste, on parle d'autre chose, on parle d'autres problèmes, d'autres misères, donc voilà. C'est surtout ma grand-mère, en fait, qui parlait de la guerre d'Algérie. Et quand elle me transmettait ces récits, elle les termine toujours par la phrase « La France, elle a fait beaucoup de choses, mon fils. » Ou « La France, elle n'était pas tendre envers nous, mon fils. » Mais il n'y avait pas de haine, c'est surtout un fait, et ça existait, et voilà, il faut les dire. Moi, j'imaginais des choses horribles, hein. Je m'imaginais des villages bombardés par l'armée française, j'imaginais des morts de partout en fait. Un jour, ma grand-mère, elle a accroché une photo dans le salon. Sur la photo, on voit un jeune homme accroupi avec une arme. Il fronce les sourcils, il a un béret sur la tête. Et il est dans la forêt, comme ça, on voit des arbres autour. Et moi, j'avais à peu près 16-17 ans. Et je lui ai demandé, c'est qui cette personne? Et elle m'a répondu que c'était son grand frère, en fait. C'est Abdelrahman. C'est là qu'elle m'a raconté son histoire que je connaissais pas. C'était une personne très respectée dans la région parce qu'il est chef d'un bataillon du FLN. Il vivait dans le maquis, au fait, avec ses hommes, près du village de ma grand-mère. Et donc les moudjahidines se réunissaient sur la place du village, à côté de la fontaine. Et là, mon grand-oncle, Abdelrahman, il faisait un discours pour encourager les villageois de rejoindre les rangs du FLN. Il faisait aussi des chants révolutionnaires. Et ma grand-mère, elle était là. Elle regardait toute cette scène. Et donc, c'est comme ça qu'elle a appris ces chants-là, qu'elle me chantait par la suite. Ma grand-mère, elle me disait qu'elle préparait énormément de galettes, elle préparait des figues sèches, de l'huile, des choses comme ça à donner pour les moudjahidines. Donc son utilité, c'était vraiment d'aider dans la nourriture, de rien que ça. Je suis fier d'elle, au fait, et c'est comme si elle a contribué énormément dans la libération du pays, quoi. Abdelrahman, il est mort au combat, au fait, il était assassiné par l'armée française. Le souvenir qui a plus marqué ma grand-mère, c'était son oncle Slimane, donc, qui était dans le maquis. Au fait, il était dénoncé par une femme dans le village. Il a été arrêté, torturé, et après, ils l'ont ramené exposé tout nu dans le village. Et donc, ma grand-mère, elle a vu ça. Et du coup, c'était trop violent, et par la suite, ils l'ont tué, au fait. L'armée française à l'époque, quand elle faisait quelque chose comme ça, et elle Elle expose pour faire peur aux autres Algériens, pour dire voilà, ça va t'arriver la même chose si tu rejoins le FLN en fait. Quand elle m'a raconté ça, j'étais énervé. J'ai demandé à ma grand-mère, est-ce que toi t'as pas envie de te venger, t'as pas envie de te révolter? Elle me disait, mais la rancœur ne servait à rien, la haine ne servait à rien. On a résisté et voilà, les jours meilleurs sont arrivés. Voilà, c'était ça. Quand j'étais petit, quand j'étais à l'école, j'ai appris que l'histoire de l'Algérie commence le 1er novembre 1954. Et tous les Algériens, sans exception, se sont levés d'un coup contre tous les Français. C'est les élèves qui préparaient la cérémonie du 1er novembre. On faisait leur levée de drapeau avec l'hymne national. On chantait l'hymne national et aussi on faisait des concours de dessin sur la révolution et tout. Et moi, je me rappelais que je dessinais des moudjahidines contre des Français avec des chars, avec des armes, alors que les Algériens, ils avaient que des sabres, des trucs comme ça. Et je dessinais ça pour plaire aux professeurs. Parce qu'à l'époque, on disait que nous, on n'avait pas les moyens. Avec un fusil de chasse, on arrivait à faire tomber un hélicoptère. Donc voilà, j'étais baigné un peu dans toutes ces choses-là. C'est nous tous Algériens, un seul héros, c'est le peuple, réuni contre cet ennemi qui est la France. C'est une sorte de surnationalisme qui fait que on est fier de cette guerre et de ce récit-là, de cette indépendance. C'est un monde en noir et blanc, en fait.
Oui, un monde en noir et blanc. En Algérie, depuis 50 ans, chaque début de semaine est marqué dans les écoles par le lever du drapeau. De 6 à 18 ans, nous chantions l'hymne national censé renforcer notre éducation. Oui, enfant, j'ai chanté. J'ai assisté à tous les cours où on nous apprenait comment le FLN a libéré le pays. J'étais fier de l'Algérie et je croyais fermement à ces histoires de bravoure. Ma famille me racontait aussi ce qu'elles avaient enduré depuis cette guerre. Pour revenir à ta rencontre avec ton destin. Carole, qui deviendra ta femme. Et votre complicité est née. Et vous continuerez à faire un travail de co-réalisation ensemble où vous produirez bientôt vos propres films, j'espère. Bientôt. Pour elle, c'était la violence, la cruauté de cette guerre qui avait souvent été occultée. C'était des personnages historiques et des massacres entre Algériens qui les avaient plus affectés aussi. Et toi, en tant qu'ancien étudiant d'économie, tu découvres cette histoire et c'est en revenant au réservoir de ton histoire, par cette rencontre de ta grand-mère et les souvenirs d'enfance, que tu fais revivre tout ce passé-là et que tu as envie de le traiter, toi et Carole, chacun de sa manière, d'un côté et de l'autre, pied noir, Kabylie algérienne qui a défendu cette Algérie au nom de cette libération. Qu'est-ce que t'en dis, Farhat, à partir de ce premier extrait, pour arriver un petit peu à la genèse du film? Je rappelle que c'est un documentaire que vous avez produit donc 7 ans après votre rencontre à la FEMIS en 2012. Mmh. Ça vous a valu beaucoup d'aventures et tout ça. On y reviendra, j'espère, on aura le temps. C'est un documentaire qui fait 88 minutes et qui a eu beaucoup de soutien. Il participe à plein de festivals et beaucoup de distinctions.
Au fait, par rapport à ce que tu dis, la découverte et de mon côté et du côté de Carole, d'où je commence peut-être par le titre Ne nous racontez plus d'histoire, d'où le titre Ne nous racontez plus d'histoire, Parce qu'en fait, de mon côté, je croyais connaître la guerre d'Algérie parce que j'étais dedans, en fait, depuis mon enfance. Et j'ai grandi avec ça. Et dans l'espace public aussi. Et du côté de Carole, c'est une autre histoire. C'est un silence, en fait. C'est un silence. Concernant la guerre d'Algérie, c'est un silence. Et pour moi, le silence, c'est une version d'histoire. Donc pour moi, je croyais que je connais la guerre d'Algérie, donc elle était mythifiée et tout. Finalement, je connais rien, je découvre autre chose. Et du côté de Carole, il y a juste la petite histoire de sa famille pied noir, mais sinon, le reste, c'est silence. Donc c'est le croisement de ces deux regards qui a créé, en quelque sorte, ne nous raconter plus d'histoire. Donc on voulait chercher notre, pas la vraie histoire, mais notre histoire en tous les cas, que celle qu'on a entendue jusqu'à maintenant, en fait.
Edouard, tu voulais dire quelque chose?
Oui, moi, ce qui me frappe d'abord, c'est que d'abord cette histoire, elle, ce film, il naît d'une union, d'une histoire d'amour. Alors, je ne sais pas si sur un plan symbolique, si l'amour répare, retisse les liens, mais en tous les cas, c'est, symboliquement, c'est quand même assez fort. Et que chacun fasse une sorte d'examen de conscience par rapport à sa propre histoire. Ne nous raconter plus pas d'histoire, c'est des deux côtés en fait, du couple. Ouais.
Bah, au fait, oui, carrément, l'amour nous rend humain. On devient juste tout simplement être humain, on est tous êtres humains. Et en même temps, finalement, on s'est dit, nous, on n'a pas de but derrière, c'est notre mémoire. Il faut qu'on la travaille, il n'y a pas de but derrière. Et donc on ne laisse pas d'autres raconter ce qui nous concerne. Oui, ce qui nous concerne, mais cette version-là, on ne se reconnaît pas dedans, des deux versions, que ce soit du côté français ou du côté d'Algérien. Et donc nous, tout simplement, c'est d'aller chercher de parler des faits, en fait, tout simplement, des faits historiques qu'on ne peut pas changer malheureusement, mais c'est des faits, ils étaient là, on ne peut pas les changer, il faut en parler.
C'est ça qui fait l'originalité de ce travail, de votre travail, parce que sincère et
ouais, mais jusque-là, c'était une mémoire, plusieurs mémoires très compartimentées, c'est-à-dire qu'on voyait en France des films sur la guerre d'Algérie, etc. Il y avait des films algériens qui sont des grandes épopées épiques sur la guerre de libération nationale, mais une histoire racontée des deux côtés. Et puis du côté, alors pas seulement du côté français, du côté pied-noir, c'est-à-dire une mémoire quand même qui est beaucoup construite sur le ressentiment. C'est une mémoire de vaincu, voilà. Une mémoire revancharde, je ne veux pas insulter... Les pieds noirs est globalisé, essentialisé, mais c'est quand même une mémoire du ressentiment. Alors que ce qu'on vient d'écouter de ta grand-mère, elle n'oublie pas. Chaque geste, chaque souvenir est ancré dans sa mémoire pour toujours. Et en même temps, il n'y a aucun ressentiment, aucune haine.
Exactement.
Il y a même une douceur, une tendresse. Et ça, c'est pas l'oubli. C'est quoi alors si c'est pas l'oubli?
Ben oui, c'était. Il me semble que c'est ça. Tu dis beaucoup de choses. Beaucoup de choses ont été dites. Hein. On trouve énormément de commentaires et de critiques sur les sites avant même que le film il commence à peine à faire sa vie, parce que c'est une démarche mais vraiment particulière. Tu dis, nous étions déçus de l'histoire officielle et nous avions envie de reconstruire par nous-mêmes notre mémoire. C'est ça la prise en main de
peut-être
son propre destin.
Petite histoire, pas la grande histoire, mais en tous les cas, en fait, c'est d'où le film, quand on regarde le film, on voit la construction déjà du film. Je vais faire juste un petit résumé. On commence par nos histoires personnelles et après l'école, on grandit avec le film, en fait, et par la suite, on va dans une sorte d'enquête, en fait, pour chercher une autre parole. Que celle qu'on a entendue des deux côtés, et à la fin c'est la transmission avec nos enfants. On l'a construit comme ça, comme tu le dis très bien tout à l'heure, c'est par rapport à, tu dis que d'habitude en fait on a l'habitude de voir des films ou des livres juste d'un côté en fait, ou d'un profil de tous ces profils durant la guerre, que ce soit sur les Mujahideen ou sur les Harki, tout seul. Et nous, c'est ce qu'on a remarqué rapidement en travaillant sur le film, on a vu que on dirait que chacun souffre de son côté, au fait. On dirait que chacun, toutes les mémoires, elles étaient séparées, au fait.
Et c'est légitime.
Et c'est légitime. C'est des souffrances très légitimes. Mais quelque part, on dirait que chacun crie de son côté. Moi, j'ai souffert plus fort que l'autre, ou j'ai souffert plus. Et du coup, nous, on s'est dit, bon, on n'est pas là à blâmer ou à condamner quelqu'un. On est là juste à parler des faits, d'histoire, de ce qui s'est passé, et d'essayer d'avancer ensemble, peut-être d'essayer de rassembler toutes ces souffrances et d'essayer d'avancer ensemble, en fait. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de parties dans le film où on parle de plein de choses.
Voilà, le cœur du film, je te cite, hein, Farhat, où à partir de là où tu dis, j'ai découvert le massacre de Melouza, le mensonge sur le nombre de morts, les assassinats politiques, soigneusement camouflé. On écoute cet extrait, Sidi, si tu veux.
J'ai décidé de commencer à filmer à Melouza, au fait. C'est un village qui se trouve sur les hauts plateaux. Le 28 mai 57, il y a eu environ 300 hommes qui ont été assassinés à coups de fusil, de hache et de couteau. C'était très violent. Tous les hommes du village ont été exécutés, au fait. Quand je suis arrivé là-bas, j'étais très surpris, au fait. Déjà, j'ai découvert un village en ruine où il y a des fosses communes de partout. Et j'ai trouvé aussi des ossements qui sont toujours pas enterrés, au fait. C'est juste la population qui les a rassemblés dans un trou comme ça, avec des pierres, mais qui sont restés à l'air libre comme ça, en attendant que l'État reconnaisse ce massacre et que ces morts soient enterrés dignement, en fait. Alors, il existe encore aujourd'hui des doutes sur les auteurs de ce massacre. Les historiens ne sont pas tout à fait d'accord sur ce massacre. D'un côté, le FLN a toujours nié d'être à l'origine de ce massacre et elle accuse la France. Et de l'autre côté, la France a toujours accusé le FLN d'avoir tué ses villageois et elle a utilisé ça pour montrer l'atrocité des moudjahidines à l'époque. On les appelait les terroristes. En fait, ce qu'on sait, c'est que les caméras françaises étaient présentes.
Les massacres perpétrés en Algérie par les rebelles contre les populations musulmanes de Melouza, Beni Hilman, Kasbah ont soulevé d'indignation le monde civilisé. Dans les ruines des villages, les 300 cadavres trouvés atrocement mutilés ont suscité l'horreur d'un geste sauvage que rien ne saurait justifier.
Et donc la France, elle a utilisé ces images pour montrer l'atrocité du FLN et aussi pour faire de la propagande pour diviser l'adversaire, en fait. À l'époque, dans la région, il n'y a pas que le FLN. Le FLN, elle était très présente. Mais aussi, il y a le MNA, donc le Mouvement National Algérien, qui était un mouvement indépendantiste plus modéré par rapport au FLN. Le FLN, plus radical, a toujours considéré le MNA comme auxiliaire de la France. Et du coup, il y a eu beaucoup de règlements de compte entre FLN et MNA. Si c'est la France qui a commis ça, il faut le dire. Si c'est le FLN qui a commis ça, il y a des erreurs dans des guerres, donc il faut le dire aussi, c'est un fait, et qu'on passe à autre chose. Il ne faut pas laisser un problème sans résolution comme ça, alors qu'il y a eu quand même 300 personnes qui étaient exécutées et que on connaît pas la vérité. Ça reste encore des zones d'ombre qu'il faut éclairer, quoi. Et c'est des pages qu'il faut écrire aussi du côté algérien, voilà. En 62, le FLN prend le pouvoir et eux, c'est des militaires. Et pour eux, il n'y a pas trop la notion de la démocratie, c'est on prend le pouvoir et on élimine chaque personne qui dérange. Et donc, ils ont créé tout un mythe glorifié pour dire que c'est nous qui ont libéré le pays contre l'ennemi commun, la France, et on a la légitimité d'avoir cette place-là. L'État algérien, il est fondé sur ce récit national. Depuis 1962, la tradition militaire elle a perduré au sein du gouvernement algérien. Et donc depuis toutes ces années, c'est la mythification et la glorification qui étaient servies à la population.
Voilà l'histoire officielle et le début. Le début, donc... C'est comme le général Bugeaud, l'instigateur, enfin le commandant-major de tous ces événements à l'époque, est toujours admiré par notre Éric Zemmour aujourd'hui, hein, qui en fait un chef. N'est-ce pas d'abord parce que la France a trop longtemps nié le caractère de guerre ? 8 années de conflit armé avec l'Algérie, luttant pour leur indépendance. Il aura fallu au gouvernement Jospin, beaucoup plus tard, pour que la République enfin admette officiellement, en 1999, après les accords de Vion, donc depuis 1962, il fallait attendre l'année 99, sous Jospin, pour enfin nommer ce qu'elle désignait jusqu'alors comme les événements d'Algérie, des opérations de maintien de l'ordre ou de pacification. N'est-ce pas?
Bah, au fait, ça pour moi, ça rentre un peu dans ce que je disais tout à l'heure, le silence, au fait. Oui, il faut attendre 90 que le président de la République, Jacques Chirac, à l'époque, prononce le mot guerre, qu'on commence à parler de guerre. Avant, c'était les événements, c'était la pacification, c'était... c'était le silence total sur ça. D'ailleurs, d'où l'intérêt de notre film, au fait, c'est de nommer les choses. Nommer les choses, de dire tout simplement, il y a eu de la torture, c'est, il faut le dire. Il y a quelques mots, il y a quelques termes, jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à les dire. D'où l'appellation guerre d'Algérie. En Algérie on dit guerre de libération, ici on dit guerre d'Algérie. On peut pas dire il y a défaite, de ce que tu parlais tout à l'heure, défaite, le mot défaite on peut pas l'utiliser. Toutes ces choses là ça nous permet pas d'avancer, au fait. Il faut vraiment, c'est des faits historiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, malheureusement on peut pas les changer, mais il faut essayer. Et que ce soit du côté algérien, moi quand je parle des deux côtés, hein. Je parle pas d'un seul côté, je parle des deux côtés, du côté algérien, du côté français. Là, on a entendu l'extrait sur le massacre de Melouza. Pareil du côté français sur le massacre de 8 mai 45, c'est la même chose. Ici en France, on connaît pas le 8 mai 45 parce que c'était la fête ici en France, hein. Mais en Algérie, l'armée française a massacré des Algériens, en fait. Et donc ça, Et les Français aussi, ouais. Il y avait une centaine de Français, mais il y avait des milliers d'Algériens à massacrer. Donc toutes ces choses-là, il faut les mettre. Il nous reste beaucoup de travail sur cette question de la guerre d'Algérie. Il y a énormément de zones d'ombre, notamment la question. Bon, maintenant on en a parlé de la question des Harkis, mais la question des Harkis aussi, elle est très complexe. Il y a beaucoup de choses qu'il faut travailler. Ouais.
Des livres, des études universitaires qui sont menées, et encore. Hein, mm-hmm. Mais ça reste aux États de se prendre en charge, finalement. Dès le départ, aujourd'hui...
Moi, malheureusement, j'ai l'impression... pas seulement pessimiste, mais j'ai l'impression que les États, elles arrivent toujours en retard. L'année dernière, on a vu...
Ils le font exprès, France. Quoi.
Oui, au fait, l'année dernière... le président de la République, il a reconnu beaucoup de points qui sont très intéressantes. Mais il a fait dans une année ce que tous les présidents n'ont pas fait en 60 ans.
Oui, parce que derrière ça, il y a l'économie. Avant l'histoire, ouais. Il y a d'abord l'économie, puisque on dit c'est une vaste transaction commerciale quand même, cette affaire de la guerre d'Algérie.
Exactement. Et donc, moi, ce que je trouve dommage, d'ailleurs, avec Carole, c'est ce qu'on essaye de faire avec le film, c'est d'essayer de connaître notre passé, au fait, et surtout de le lier au présent. En fait, moi, ce que je trouve dommage, c'est l'histoire qui revient, le passé qui revient. Ça, c'est très, très dommage.
Il y a une phrase de Georges Bernanos, que j'aime beaucoup, écrit en 1942. C'était un écrivain réactionnaire, et puis il va en Espagne, et il voit les horreurs de la guerre d'Espagne et du franquisme sur la République espagnole, et il dit... On vous affirme maintenant, on vous répétera plus tard qu'il ne faut pas revenir sur le passé. Mais ce n'est pas nous qui revenons sur le passé, c'est le passé qui menace de revenir vers nous. Et que l'histoire et non pas la mémoire, justement, permet de dépasser, de dépasser la crise, de dépasser les conflits avec le temps, bien sûr. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement l'histoire, parce qu'il y a quand même maintenant aujourd'hui... un somme d'historiens, enfin, la porte s'est entrouverte depuis un certain nombre d'années, et donc il faut laisser les historiens faire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le fait que la génération d'après, une génération, toi tu fais partie d'une génération qui n'a pas vécu la guerre, qui en a un petit peu marre, tu vas me dire si je me trompe, si je trahis ta pensée, mais effectivement de l'histoire officielle, mais je me dis aussi comme des jeunes qui naissent après-guerre, en ont marre de l'histoire officielle racontée par l'après-guerre, à savoir qu'il y a un seul peuple français uni contre l'envahisseur, et on sait très bien, et ça a mis énormément de temps pour qu'on le découvre, c'est les années 70, où là le tableau se contraste, et on voit, ouais, d'accord, il y a un peu de résistants, il y a aussi pas mal de collaborateurs, au milieu des gens qui attendent que ça passe, quoi, en fait. Donc comment se fait-il que vous dites donc que toi et ta compagne qui, elle, grandit dans cette perte de l'Algérie, avec cette anomalie qui leur paraît complètement aberrant, c'est-à-dire qu'au moment où les Algériens ont gagné leur indépendance, les Algériens viennent en France. Alors ça, c'est un truc qui les fait péter un câble. Et toi, de ton côté, avec ces histoires, ne nous racontez plus d'histoires. Pourquoi vous n'êtes pas dit, bon, maintenant c'est l'amour qui parle, et puis cette histoire on la met de côté, on s'intéressera à autre chose, on essaie de dépasser justement ce qui a hanté l'histoire de nos parents, de nos grands-parents. Ce qui fait que vous dites, il faut prendre le taureau par les cornes.
De mon côté, je l'ai dit déjà ça avant, quand j'étais à l'université, j'étais plus militant, j'étais plus préoccupé par les problèmes de l'époque, en fait, du manque, de la liberté, de tout le côté des questions des droits de l'homme, en fait, à l'université, donc j'étais engagé sur ces questions-là, et après, moi, ce que je... Pardon si je répète les choses, mais ce qui m'a marqué, c'est des choses qui reviennent, qu'on entend encore aujourd'hui, alors qu'elles sont passées pendant la colonisation. Quand on parlait de... Tout à l'heure, je parlais de 17 octobre, 17 octobre 61, quand les Algériens ne peuvent pas sortir dans les rues et le basaner, il est mal vu. Aujourd'hui, on entend dans le discours, dans la scène politique, on entend aussi de délai de faciès, on entend des choses comme ça qui reviennent et qu'on ne comprend pas. En 2005, on a entendu d'un certain groupe qui voulait ramener la colonisation positive. Alors que c'est horrible la colonisation, parce que là dans le film on parle de 7 ans de guerre, mais on parle pas de 130 ans de colonisation, de massacre, d'exploitation. tout ça, c'est énorme. Et ben, pour moi, c'est un peu comme si je viens chez toi, je te prends ta maison, et pendant 130 ans, je sais pas combien, et à la fin, quand je sors, je te dis, mais n'oublie pas, j'ai nettoyé la salle de bain quand même. Pour moi, je trouve ça trop, je sais pas. Et malheureusement, il y a des personnes aujourd'hui qu'on entend et qui disent ce genre d'horreur, ce genre de choses. Et c'est ça qui nous motive, moi et Carole. On s'est dit, mais si on laisse cette parole, cette mémoire à la main des autres, eux, ils l'utilisent. C'est pour ça que je t'ai contredit tout à l'heure. Ouais. C'était par rapport à ça, parce que c'est pour ça que moi et Carole, on n'attend pas des officiels pour qu'ils nous racontent ou qu'ils arrivent toujours
non,
en retard.
C'est le vécu. C'est votre vécu.
Voilà, exactement.
Aujourd'hui, je retiens juste, si tu me permets, une citation qu'elle dit. Je cite Carole. Et qui parle. Je suis pour ma part retourné à Mehdia, comme toi tu es à Sekpo, ton village natal. Mehdia, où elle est,
ouais, elle est partie à Mehdia à l'époque, ça père, s'appelait de voilà, Burdo à l'époque. Hein.
Voilà, où Burdo, voilà, à l'époque, au nom d'un ministre de la colonisation du 19e, c'est un petit village dans les hauts plateaux, j'y cherchais dont me parlaient mes grands-parents quand on était enfant de pieds noirs. On entend toujours des discours sur l'Algérie qui relatent une vie magnifique. Un paradis perdu.
Exactement.
Sur place, je me suis rendu compte que ce n'était pas ça. Qu'ils avaient magnifié leur passé par nostalgie.
Ben, c'est ça, toute la différence de la nostalgie et de la mémoire, elle est dedans.
Et on est arrivé là parce que certaines familles refusent toujours de retourner en Algérie, parce qu'il y a toujours cette peur de l'autre.
Exactement. Et aussi, il y a la nostalgie qui fait grandir les choses. Même nous, hein, sans la colonisation, sans rien, quand on repense à notre maison d'enfance, même si elle est délabrée, même si on voit la cour comme si c'est une grande cour alors que c'est petit, on voit, ça fait grandir dans la tête, au fait. Et donc la nostalgie, elle sert plus à ça, et rester dans cette tristesse aussi. Et de malheureusement, il y avait de la haine.
Donc est-ce que le préalable, donc, c'est pas passé par reconnaître la souffrance de l'autre? Est-ce que ça, c'est le...
Ben, la souffrance de tous les autres, pour moi, oui, bien sûr. Et qui sont des souffrances légitimes. Je parle de tous les profils. Je ne parle pas juste de... que ce soit côté algérien ou côté français. Toutes les souffrances, elles étaient... Parce que, en fait, moi, pour que je comprenne tout ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, je me suis mis... Pardon, Eddy, je me suis mis à la place de tout... ces profils-là, que ce soit Harki, que ce soit Pied-Noir, que ce soit Pied-Noir qui est là en quatrième génération, comme le dit très bien le papa de Carole dans le film. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, je vais partir de l'Algérie parce que c'est pas mon pays. Du côté d'anciens appelés aussi, qui a 20 ans et qui connaît même pas la France, et qu'on lui dit, tu vas faire ton service militaire en Algérie, tu vas tirer sur les Algériens. Je suis pas en train de justifier, mais j'essaye de comprendre tous ces profils-là et pour essayer d'avancer, tout simplement, en fait.
Et ce qui est dit dans le film, c'est finalement chacun son histoire, et comment réussir à écrire une histoire commune?
Ben, histoire commune, on est très 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 loin. je suis un peu pessimiste sur ça, mais parce que du moment qu'on n'a pas déjà les archives et qu'on n'a pas une volonté, une vraie volonté des deux côtés, hein, je parle toujours, une vraie volonté d'avancer sur les choses, que toutes les choses, hein, que ça soit des choses qui nous contredisent ou des choses, voilà, c'est des faits historiques, on ne pourra pas avancer. Et du côté algérien, il faut faire un travail. Et du côté français, il faut faire un travail. Et à ce moment-là, on va essayer de les rencontrer, les deux.
Mais toi, tu as déjà commencé à le faire. La rencontre, c'est faite.
Oui, on essaye de contribuer avec une petite pierre, mais il reste énormément de choses.
Et alors, sur un plan personnel, puisque tu dis il faut démystifier l'histoire, déglorifier, essayer d'amener de la complexité et d'écrire une histoire sans tension. Est-ce que vous y êtes arrivé ou pas dans le film?
Ben, pour nous, c'est pour ça que dans le film, on termine un peu avec nos enfants. C'est pour savoir qu'est-ce que... Ils nous ont transmis cette histoire. Mmh. Et nous, on a creusé, on a cherché. Et on a trouvé autre chose. Des choses qui se contredisent. Que la guerre, elle était complexe. Elle n'était pas aussi facile que ça. Et par la suite, qu'est-ce qu'on va transmettre à nos enfants? Moi, ce qui m'intéresse, qu'est-ce que je vais raconter à mes enfants? Ah. Est-ce que je vais raconter que le français, c'est le méchant et qui a fait des horreurs en Algérie? Est-ce que je vais raconter que l'Algérien, c'est le bon? Est-ce que je vais raconter, qu'est-ce que je vais raconter exactement? Et donc, moi, en travaillant sur le film, j'ai trouvé que c'est très complexe et je vais raconter des choses beaucoup plus humaines pour essayer d'avancer que des choses qui sèment la haine, qui sont là juste à servir des buts, que ce soit des buts politiques généralement c'est des buts politiques en fait,
d'instrumentalisation,
que ce soit d'un côté ou de l'autre. Alors, c'est pareil.
Pour ceux qui nous écoutent ce soir, pour nos auditeurs, auditrices, si vous souhaitez voir ce film près de chez vous, que vous voulez organiser une séance spéciale avec des rencontres, des débats, nous vous le conseillons vraiment. Le film, il n'a pas encore fini sa vie, malgré sa parution dans plusieurs festivals. Mais sa diffusion, elle tarde à venir. J'espère qu'on aura le temps de discuter un petit peu sur toutes les difficultés techniques, le problème. C'est 7 ans de genèse de ce film, historique de ce film. Allez voir le site de Vrai Vrai Film, le catalogue, et vous y trouverez plus d'informations. Il y a donc, tu dis Farhat, il y a ces deux histoires officielles et nous au milieu, à la mer. Sidi, si tu peux nous passer un témoignage très important de Benjamin Stora à propos de ce film.
Ce film est très bien parce que il part, disons, de récits convenus, de récits entre guillemets officiels, en Algérie, bien sûr, avec l'hymne national, par les enfants, et puis, bien sûr, aussi en France, par cette sorte de silence, lorsque, par exemple, on évoque les massacres du 8 mai 45, et ces plaques qui sont retirées systématiquement. Donc, on voit bien que d'un côté, il y a une sorte de surabondance de récits héroïsés, et puis, de l'autre côté, en France, une sorte, disons, de voile pudique qui recouvre cette réalité historique coloniale, car il faut bien employer le mot de colonial, quand même, Je veux dire, au stade où nous en sommes de notre discussion maintenant. Bref, pourquoi est-ce qu'en dépit de toute cette production, eh bien, on a toujours cette sensation du silence, de l'absence, du non-dit, du vide, qui peut exister à l'intérieur des deux sociétés? C'est très troublant. C'est très troublant, c'est ce problème, disons, de fossé qui existe. En dépit, disons, de cette production extraordinaire, pourquoi cette absence de passage à travers les générations de tout ce savoir, de toutes ces émotions, de tout ce bloc de sentiments, de souffrances qui a pu effectivement exister? Et là, il faut s'interroger sur le problème de l'absence de transmission. Disons-le, nous avons maintenant un certain nombre de gestes et d'actes à caractère étatique et politique. Mais force est de constater qu'il n'y a pas eu l'équivalent du côté algérien. C'est-à-dire que nous avons effectivement eu beaucoup de gestes du côté français, de reconnaissance, des essais nucléaires, les archives, Boumengel, Audin, etc., etc. Mais mon rapport n'a pas rencontré d'écho du côté algérien. C'est-à-dire qu'il faut aussi s'interroger sur le problème de la transmission en situation aussi de non-admission d'une histoire interne algérienne, et le film le montre bien, d'une histoire intérieure algérienne qui est aussi une histoire terrible. Moi, j'ai été très surpris et très agréablement surpris par ce film lorsqu'on a abordé, je pense que c'est cela dont il était question dans le film, le massacre de Mulhouse, 572 Algériens qui ont été assassinés en 28 mai 1957. C'est très rare, effectivement, que du côté algérien, on puisse aborder ce problème de la violence intérieure. Et je crois que s'il y a un problème de transmission, s'il y a un problème plutôt aussi de difficulté d'écrire en commun l'histoire, c'est qu'il faut aussi des réponses du côté algérien. Il faut aussi que de l'autre côté de la Méditerranée, il y ait des réponses qui soient formulées. Vous savez, à la suite de mon rapport, il y a quand même une chose positive. C'est que les historiens algériens ont fait une pétition pour l'ouverture des archives algériennes. Parce que 60 ans après l'indépendance, il y a beaucoup d'Algériens, de jeunes, des chercheurs algériens qui ont envie de connaître leur véritable histoire. C'est bien que le film ait parlé de l'assassinat de Adnan Ramdan, parce qu'effectivement, il n'a pas été assassiné par l'armée française. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. De soulever, disons, des questions internes, parce que tant que tous les secrets de la guerre, que ce soit du point de vue français, avec le témoignage extraordinaire de cet officier français sur le mitraillage d'Algériens, ça c'est vraiment, dans le film, je trouve ça remarquable de le dire, mais aussi du côté algérien, et je ne renvoie pas dos à dos, je dis simplement qu'il faut lever les secrets de la guerre, parce que si on ne les lève pas, soit du point de vue étatique, par la reconnaissance de gestes, de réponses réelles, soit du point de vue, disons, des travaux historiens et même d'écrivains d'une rive à l'autre de la Méditerranée, on restera dans la séparation des mémoires, dans le cloisonnement des mémoires. Or, moi, je plaide, vous le savez, pour une sorte de circulation mémorielle. C'est-à-dire qu'on puisse discuter d'une rive à l'autre de tout ce qui a constitué ces secrets d'histoire, oui, qu'il faut mettre à jour. Ce film y contribue, je dis carrément, c'est très bien. Hein, ce film ne nous raconte pas d'histoire. Moi, j'avoue que quand le film a commencé, je dis, voilà, le récit national, l'hymne national, je connais bien sûr très bien, et que je dis, voilà, bon. Et puis tout à coup, on est passé de cette sorte de discours convenu à un discours sur les marges, à la périphérie, la question des Harkis, la question de Mélouza, la question de Rapin, etc. Et là, je me suis dit, on est en train, dans la nouvelle génération, et je les en félicite, et je félicite les gens, le couple qui a fait ce film, et on est en train, enfin, à partir d'une énorme production académique, historienne, littéraire, scientifique ou autre, on arrive, oui, et ce film le montre, à une sorte de passage quand même, à une sorte de transmission quand même de ce qui se passe, et moi, je ne peux que m'en féliciter.
Voilà, après ce témoignage de Benjamin Stora, je voulais aussi... ça m'a surpris quand même de trouver sur Le Matin d'Algérie un petit témoignage qui parle de ce film, un film documentaire étonnant, courageux et bouleversant. Mm. En même temps, un regard apaisant, apaisé, sur une histoire écorchée. Mm. Donc c'est un nouveau regard, plein d'amour pour un rapprochement entre les deux rives. On rêve. Rêvons-nous tous. Je voulais parler, surtout avant la fin de notre émission qui arrive à son bout, toute cette histoire chargée pendant 7 ans, comment vous l'avez menée, si tu peux après nous raconter un petit peu les difficultés d'être aussi pour porter un projet documentaire comme vous l'avez fait, toi et Carole. Tu as dit plein de choses hein, pendant ces rencontres pour expliquer le témoignage qui disait qu'il n'y avait pas de financement en dehors des canaux officiels. En effet, les réalisateurs s'autocensurent pour pouvoir bénéficier de cette manne financière. Mmh. Trouver de l'argent, quoi, doivent faire appel à des financements étrangers. Donc, mais du côté algérien, il n'y a rien. Nous avons reçu des financements de différentes institutions. Notre producteur. À l'époque a fait faillite, ouais. En plus. Ouais. Les financements dédiés au film ont disparu et nous avons dû racheter nos droits d'auteur. Mm-hmm. Donc, quelle histoire. L'autorisation de tourner dans une école, en plus, les autorisations de tournage, parlons de cette interdiction, en plus, tu nous racontes.
En fait, en travaillant sur... En travaillant sur le film, on était un peu... confronté, si je peux dire, à deux sortes de... Bon, il y avait le producteur qui s'est déclaré en redressement judiciaire, on a perdu tout l'argent destiné pour le film, et du coup on a continué avec les moyens de bord. Et après, par la suite, on était confronté un peu à deux censures sur ce sujet-là de la guerre d'Algérie. On était un peu, du côté algérien, c'était un peu... la censure directe, hein, parce qu'on a demandé des autorisations pour tourner, on n'a pas eu jusqu'à aujourd'hui. On a déposé les demandes en 2015, jusqu'à aujourd'hui, ni oui ni non d'ailleurs. Du coup, on a fait pas mal d'images, un peu des images à la sauvette. Il y a des régions où on était à l'aise, on a tourné à l'aise, mais il y a d'autres régions où on était convoqué à la police,
les confiscations
de matériel.
Et des procès en cours.
Oui, à la fin, ils arrêtent de me convoquer à la police, il convoque mon père. Donc il y a eu tout un truc comme ça, donc côté algérien.
Et jusqu'à aujourd'hui, tu as peur de rentrer?
Au fait, ça c'est lié à tout le militantisme aussi et toute la question du film. Donc c'est la continuité au fait, parce que en ce moment c'est la répression, en Algérie c'est l'arrestation de tout militant ou même quelqu'un qui publie un statut sur Facebook. Donc c'est, la situation ne nous permet pas de retourner à l'aise en Algérie. Mais du côté français, on était confronté à une censure indirecte.
Voilà. Nous n'avons aucun problème pour tourner en France, la diffusion qui s'avère difficile.
Il y a des institutions, que ce soit pour le financement ou pour la diffusion, qui aiment le projet de film, qui trouvent le projet très intéressant et singulier dans sa démarche et tout ça. Mais le problème, c'est que, et il ne fallait pas parler, ce qui les intéresse, c'est le côté algérien. Et il faut parler de l'Algérie, mais pas du côté français, de parler de la torture, de parler du sort du Harki, de parler de plein de choses. Donc il faut juste se focaliser sur l'Algérie. Il y avait même des chaînes qui nous ont contactés pour refaire le montage et garder juste ce qui les intéresse. Et ce qui les intéresse, c'est du côté... Donc on était confrontés à ça. Soit tu dis oui, et ton film, il est acheté par une chaîne de télé... Et il sera diffusé à leur film, plutôt, c'est pas ton film, leur film, leur montage. Soit on continue comme ça, ce qu'on a fait, on a continué à faire notre film, on préfère garder notre film que de diffuser juste ce qui les intéresse. Donc, côté français, on n'a pas reçu une censure directe, mais il y avait quand même la censure indirecte sur ce sujet, en tous les cas. En fait, les institutions, elles ont peur de traiter ce sujet librement. À chaque fois, il faut passer par un angle très précis et ne pas. Et il y a des limites. Il faut aller jusqu'à la limite et s'arrêter, en fait. Et donc, c'était ça, en fait, par rapport.
Alors, justement, il a été vu en Algérie, il a été vu.
Non, en Algérie, comme l'Institut français a participé dans le financement du film, bon, on a signé la convention, après le producteur est parti avec le financement, mais donc dans la convention, on est obligé de faire des projections dans les instituts français en Algérie, sachant qu'en Algérie, il n'y a pas de salle, il y a maximum une vingtaine de salles, dans un territoire qui fait trois fois la France, hein, c'est énorme, et les instituts français, on a fixé des dates. C'était annulé la veille, au fait. Ils ont annulé les projections du film la veille. Voilà. Donc, on n'a pas pu le diffuser en Algérie. On espère le diffuser un jour.
Oui, mais c'est un film, c'est du poil à gratter. Hein,
ouais, exactement. Mais là, on attend, on espère. Ça viendra peut-être, parce que c'est un travail qu'on a fait, pas juste pour la France ou pas juste pour l'Algérie, des deux côtés. C'est vrai qu'aujourd'hui, je tiens déjà quand même à dire quelque chose, parce qu'aujourd'hui, on a passé des extraits un peu sur l'affaire Melouza, mais on a l'impression qu'on parle que de l'Algérie, mais dans le film, on parle aussi de la France, de toutes les choses. Par exemple, je parlais des Harkis tout à l'heure, qui étaient mises dans des camps. C'est pour ça que toi, tu as dit la phrase, elle est magnifique, la phrase que le passé nous revient, c'est lui qui nous revient. Pour moi, la question de Harki, dans la même semaine où le président de la République français a reconnu et a demandé pardon aux Harki, dans cette même semaine, il y avait déjà un bateau de migrants qu'on ne voulait pas qu'il accoste à Marseille. Donc en fait, on va attendre 60 ans pour leur demander pardon aussi. Donc on n'a rien appris de notre passé. Pour moi, c'est le passé qui revient, comme tu le dis très bien. Et il faut lier le passé au présent. Et comme ça, on pourra le comprendre. Et surtout, on ne pourra pas laisser des paroles fascistes comme ça qui sortent.
Et puis aussi, tu travailles aussi pour tes enfants, parce que ce n'est pas simplement travailler sur l'héritage, c'est travailler aussi sur ce que tu lègues aux générations qui viennent. C'est-à-dire, comme tu disais tout à l'heure, c'est quelle histoire je vais leur raconter, quoi.
Exactement. C'est ça. Tout simplement... De raconter ce qui s'est passé. Et comme je l'ai dit, le passé, on ne peut pas le changer. Mais on ne va pas véhiculer la haine derrière ou juger tel ou tel. C'est arrivé des choses comme ça, et voilà, il faut les dire. Et quand on les dit, on n'est pas là à condamner tel ou tel profil. Mais c'est juste pour
connaître son histoire.
Pour connaître. En fait, tout simplement, moi, je fais des projections scolaires aussi.
Et éviter d'avoir peur.
Exactement, exactement. Mais surtout, c'est le but.
Connaître.
Moi, dans les salles...
Marie, tu cites Marie.
Exactement.
Cette phrase importante. Celui qui ne connaît pas son histoire...
Le peuple est condamné à revivre son histoire. Au fait, moi, dans les salles, dans les projections scolaires, j'ai des différents élèves ou lycéens qui viennent. Et il y a des Français d'origine algérienne, il y a des Français descendants d'anciens appelés, et c'est mélangé, au fait. Tout simplement, rien que c'est le fait d'apprendre ce passé, Peut-être on comprendra pourquoi le descendant d'Algérien il est là, pourquoi on pourra comprendre pourquoi la salle elle était diversifiée comme ça. Il y a des différentes origines dans la salle. S'il n'y avait pas la colonisation, peut-être ça sera autre chose. Donc tout simplement de comprendre le présent en fait, tout simplement.
Les tournants de l'histoire.
Exactement.
Les retournements.
Est-ce que je peux me permettre de lire le carton titre qui est incrusté dans le film, au début du film ? Sur un horizon, on voit la mer avec un beau coucher de soleil. Il y a une phrase, et tu nous diras de quel est son auteur, son autrice en l'occurrence.
Oui, de Habib Adjanin.
Ce matin à l'aube, je découvre nos morts tout près de nous. Ils refusent les faux semblants de l'histoire. Ils s'érigent en sentinelles invisibles. Ils veillent sur nos mémoires. Ils veillent sur nos amnésies.
Exactement.
Voilà, sur ces mots, Eddy, j'espère qu'on aura l'occasion de nous revoir, toi et Caro.
Avec plaisir.
Pour vos prochains projets en cours, puisque tu es en développement sur un prochain film de fiction qui parle des déplacements des personnes dans le temps et dans l'espace.
Oui,
très intéressant.
Oui, d'ailleurs, comme ça j'enchaîne sur la question de comprendre pourquoi on est là. Moi, dans ma famille, donc mon arrière-grand-père, il était tirailleur algérien. Donc, il est venu ici. Bon, après les appellations, ça change. Hein. Tirailleur algérien, il est venu ici pour combattre l'Allemagne nazie. Et par la suite, mon grand-père, il est venu à Saint-Étienne pour travailler dans les mines. Et après, moi, je suis là. Donc, les déplacements, ils sont là. C'est juste les noms qui changent. Mais voilà.
Merci pour être. Tu nous apportes la joie que. Et l'intelligence de.
Ben merci à vous, merci pour l'invitation, merci à Eddy aussi pour la compagnie.
Pour la suite, les chers amis auditeurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Nous vous promettons une prochaine, le lundi dans 2 mois. Merci Sidi, merci Farhad, merci Eddy.